RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Bonsoir à tous, en direct de Plumelec ce soir au terme de la 9e étape du Tour de France. La première partie de la grande boucle est désormais derrière nous. Reste maintenant à attaquer les montagnes et c'est une autre paire de manches qui attend les coureurs après la journée de repos demain à Pau. Les coureurs de ce Tour de France qui ont d'ailleurs pris l'avion direction Pau. Une petite heure de voyage, de vol et puis ensuite repos mérité jusqu'à mardi matin et l'attaque de la première étape des Pyrénées. On va en parler dans un instant avec Luc Leblanc, avec Cyril Guimard et Thierry Bourguignon, dresser le bilan de cette première partie, se demander s'il y a encore du suspense et ce que peuvent espérer nos petits Français d'ici l'arrivée à Paris dans 15 jours. Tout ça, ce sera dans un instant, mais auparavant, Guillaume Lamiel est là. Guillaume Lamiel est là pour la deuxième édition du Journal des Sports, Guillaume, avec évidemment peut-être un peu de tennis ce soir.
Et la finale de Wimbledon, exactement, Christophe. On prend la direction de Londres tout de suite pour retrouver Eric Salio. Salut Eric.
Bonsoir.
Une finale qui s'est terminée il y a une petite demi-heure avec la victoire de Novak Djokovic. Plus fort tout simplement aujourd'hui que Roger Federer.
Ouais, 7-6, 6-7, 6-4, 6-3. Il y a eu un pic d'intensité assez exceptionnel lors du tie-break du deuxième set remporté par Roger Federer, 12 points à 12 en écartant 6 balles de set. Et à ce moment-là, on s'est dit, ah, le Suisse a peut-être une chance d'aller chercher un nouveau titre à Wimbledon. Mais la porte s'est très très vite refermée. Elle a claqué sur les doigts du Suisse parce que Djokovic n'a pas relâché son effort. Il a réussi à remporter le troisième set, 6 jeux à 4. Et dans le quatrième set, là encore, il était le plus fort, notamment en retour de service, un secteur de jeu où il a copieusement dominé Roger Federer. Et actuellement, Novak Djokovic, qui est à l'intérieur du club, il a montré son trophée et il est dans les bras de son épouse, qui peut donc l'embrasser. Et je pense que là, peut pas être plus heureux parce que c'est probablement le titre du Grand Chelem le plus convoité. Donc Novak est à 9, 3 ici à Londres, à 9 il conforte sa place de numéro 1 mondial et il sera évidemment très très dur à aller chercher à New York.
Et Roger Federer reste à 17 grands chelems. Merci beaucoup Eric, on va parler désormais de l'athlétisme avec la dernière journée des championnats de France à Villeneuve-d'Ascq où nous retrouvons François-Xavier de Châteaufort. Salut Fix.
Salut Guillaume.
Et Christophe Lemaître a pris sa revanche sur Jimmy Vico, le maître champion de France du 200 mètres.
Ouais, Christophe Lemaître qui décidément ce week-end se sera rassuré véritablement hier en réalisant les minima sur 100 mètres en finale, même s'il a été battu par un excellent Jimmy Vico. Et aujourd'hui, eh bien, en conservant son titre de champion de France du 200 mètres, un titre qui lui tenait vraiment à cœur, car on le sait, eh bien, le 200 mètres, c'est sa discipline de prédilection. Christophe Lemaître qui a tenu bon, qui a vraiment, eh bien, eu des bonnes sensations, comme il nous l'avait déjà dit hier sur 100 mètres. C'est le très très bon augure, un peu plus d'un mois des championnats du monde à Pékin. Christophe Lemaître qui est sur la bonne voie, qui est de retour. Et ça, c'est totalement encourageant. La déception, c'est pour Jimmy Vico, qui n'a malheureusement pas réussi les minima. Il aura encore d'autres occasions, mais plus beaucoup. Il a échoué à 4 centièmes de seconde, 20-42 contre 20-38. Minima requis pour être du voyage à Pékin sur 200 mètres.
Merci Fix, et on rappelle que Renaud Lavilloni s'est rassuré tout à l'heure, hein, en remportant le titre avec un saut à 5,85 m. Titre de champion de France également pour Garfield Darien et Pierre-Ambroise Boss. Le football, premier réussi pour le Paris Saint-Germain actuellement en stage en Autriche. Les Parisiens se sont imposés 3-0 face au Wiener Sport Club, équipe de 3e division autrichienne. Et puis en rugby à 7, l'équipe de France masculine est qualifiée donc pour les Jeux Olympiques de Rio lors du tournoi d'Exeter. RMC, radio officielle de l'équipe de France Olympique, 19h10 sur RMC. Christophe, je te repasse la main pour la suite du débrief de la 9e étape du Tour de France.
Exactement Guillaume, la suite du débrief de cette 9e étape et de cette première partie du Tour de France, car c'est bien la première partie du Tour de France qui s'est achevée ce soir à Plumelec au terme de cette 9e étape contre la montre de 28 km, donc entre Vannes et Plumelec. Première partie et grand transfert pour les coureurs qui vont prendre donc l'avion, qui sont en train de prendre l'avion direction Pau, une petite heure de vol et ensuite repos, les pieds en l'air jusqu'à mardi matin. Ils sont là avec moi, en forme, avant de prendre la route. J'ai nommé Cyril Guimard. Bonsoir monsieur le druide.
Oui, bonsoir, ici donc à votre droite.
À ma droite, le druide est à ma droite. Luc Leblanc est face à moi, salut Lucho.
Bonsoir mon cher Christophe.
Et Thierry Bourguignon, toujours les pieds en éventail au bord de sa piscine.
Oui, bonsoir messieurs.
Comment ça va Thierry?
Aujourd'hui. Dans le petit camion, vous êtes cramé ou quoi?
Non, pas du tout. Non, non,
la
non,
journée de repos tombe.
On a le petit blouson.
La journée de repos, si tu veux, après 800 km, elle sera méritée, la journée de repos. Hein? Donc voilà. Alors, messieurs, donc on va dresser le bilan dans un instant. On va tout d'abord revenir sur cette 9e étape contre la montre par équipe. C'était le 2e chrono et dernier de ce Tour de France. 28 km, un chrono un peu atypique, Cyril, car il y avait cette bosse à la fin qui a fait du mal à certains, et notamment à la formation Sky, qui au pied de la bosse était en tête des chronos devant la formation BMC, mais qui dans les derniers hectomètres a un peu souffert. Ça a été le cas de Nicolas Roche notamment. On a vu Chris Froome venir à l'arrière du groupe. Il fallait que les 5 premiers terminent, hein, puisque le classement, enfin le chrono était arrêté sur le 5e coureur de l'équipe. On a vu Chris Froome revenir un petit peu en arrière, essayer d'arranger ses troupes, essayer d'encourager Nicolas Roche, mais ça n'a pas suffi.
Quand vous êtes
décroché, ouais, quand on est au bout du rouleau.
Quand vous êtes sec, vous êtes sec.
Ah ouais, surtout.
Et c'est vrai, puisque au passage sous la flamme rouge, il y avait à peu près entre 5 et 6 secondes d'avance pour l'équipe Sky. Et puis là, effectivement, il y a le 5e qui a donné de la bande. Et qu'il a fallu attendre jusqu'à l'arrivée. On l'avait évoqué à plusieurs reprises, cette possibilité. Beaucoup d'équipes ont perdu du temps par rapport à d'autres, bien sûr. Donc la gestion du 5e coureur était très importante. Alors Froome en était conscient, je pense que les autres aussi, mais il fallait ramener le soldat Roche sur la ligne dans les meilleures conditions, mais il aura manqué 6 secondes.
6 secondes pour faire la Sky. 62 centièmes, une demi-seconde, un peu plus une demi-seconde pour la team Sky qui s'incline. Donc déception légitime des coureurs. On en parlait tout à l'heure pendant le direct. C'est important, Lucho, hein, pour un équipier, notamment un Gregario qui est là, qui travaille tout au long du tour et qui, dans cet exercice, peut avoir l'occasion de soulever un bouquet. C'est important. Et ben, Chris Froome n'était pas déçu, mais ses équipiers sans doute un peu plus, hein.
Ben oui, ben je pense que le petit Roche doit avoir un petit peu mal au ventre ce soir, parce qu'à la limite, si la Sky perd aujourd'hui, c'est pas de sa faute non plus, parce qu'il a dû tout donner avant Cadoudal avec son équipe, et puis qu'il lui a manqué un petit quelque chose, peut-être 200-300 mètres avant de passer la ligne, et c'est là pour rien du tout, quoi, en fin de compte. S'il avait pas pris 2-3 mètres et si Froome n'était pas redescendu à sa hauteur pour l'encourager, ils auraient certainement dû gagner ce contre-la-montre, mais c'est comme ça, ça fait partie du contre-la-montre par équipe. C'est un exercice où il faut être solidaire ensemble, homogène. Ils ont été homogènes toute la journée, mais il a manqué un petit truc.
Il a manqué vraiment une petite poussière de temps, hein, 62 centièmes. Thierry, est-ce que tu t'attendais à un duel aussi serré entre les deux formations?
Non, pas aussi serré. On savait que ça allait être un peu, c'était ou BMC ou la Sky. Et puis, moi, j'ai été surpris aussi par Movistar. 4 secondes.
Troisième à 4 secondes, hein.
Bon, on en avait parlé hier aussi, Thierry. Ouais.
Mais, pardon?
On en avait parlé hier aussi de la Movistar qui pouvait.
Oui, mais quand même, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi près des meilleurs rouleurs, quand même.
Ouais.
On savait que c'était une équipe de grimpeurs et qu'ils pouvaient avoir quelques difficultés comme l'a eu un petit peu la Team Cof ou Astana. Mais 4 secondes, ils ont minimisé la chose et c'est super.
Normalement, c'est la Movistar, si elle avait été un tout petit peu plus
organisée,
attentive.
Oui, parce qu'à un moment donné,
ils perdent entre 5 et 10 secondes avant de se regrouper.
Facile.
Et c'est vrai que Valverde était impérial. Celui qu'on n'attendait pas à ce niveau-là, Quintana était impérial. Et ça, c'est une indication qu'il est important de
souligner. Ils se baladaient dans l'ascension.
Et ils ont tellement roulé vite que l'équipe s'est cassée en deux, qu'il a fallu attendre. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment, on a été obligé de rouler qu'à la vitesse de ceux qui n'avaient pas pu suivre, alors qu'ils étaient déjà en tête. Alors qu'ils étaient déjà en tête. Et malgré ça, j'ai fait quelques comparatifs, sans parler des deux dernières, parce que je l'ai pas fait sur les deux dernières, mais sensiblement, c'est la même chose. Ils avaient repris au minimum 9 secondes, malgré cela, sur toutes les autres équipes, du deuxième pointage au troisième pointage. Ils n'ont rien perdu, malgré cela.
Ah oui.
Oui, ils n'ont pratiquement rien perdu puisqu'ils étaient à 4 secondes et qu'à l'arrivée, ils sont toujours à 4 secondes. Et malgré cela, ce qui veut dire que l'équipe la plus forte dans ce contre-la-montre par équipe, si il y a, si elle avait eu la présence d'esprit, alors je sais pas à quoi servent les oreillettes, mais ils les ont dans le contre-amende par équipe. Mais à ce moment-là, il fallait tout de suite, au moment où il y a eu la cassure, alors il y a dû y avoir...
Demander au mec de devant de ralentir.
Alors, il y a dû y avoir un accrochage ou un relais raté, etc. Mais si il n'y a pas cela, c'est Movistar qui l'emporte.
Avec des 6, c'est sûr.
Eh oui, bon, Movistar 3e, je vais vous donner le classement de l'étape. Donc victoire de la formation BMC Racing Team en 32 minutes 15 secondes à 6 dixièmes. Donc la Team Sky à 4 secondes. La Movistar de Quintana et Valverde. L'équipe d'Alberto Contador, la Tinkoff Saxo, est 4e à 28 secondes. Et l'équipe de Nibali, vainqueur sortant du Tour de France, est 5e à 35 secondes. Suivent Yam, Etix et les Français sont beaucoup plus loin, notamment la première équipe française. AG2R, la mondiale, qui termine 10e avec un retard d'une 24. On parlera des Français tout à l'heure. La FDJ est 14e à 1,33. Europcar, 17e à 1,42. Bretagne Séchée, 18e à 1,46. Et pour clore le classement des équipes françaises, la formation Cofidis termine avant-dernière, 21e, avec un retard de 2 minutes 32. C'est Orica Greenedge qui termine dernière, mais on le savait évidemment, les Orica Greenedge qui n'étaient que 6 au départ de ce contre-la-montre après l'hécatombe qui a frappé l'équipe dans les premières étapes avec 3 abandons. Il termine avec un retard de quasiment 5 minutes, 4,58 pour Orica Greenedge, mais c'était une sorte de journée de repos aujourd'hui.
Oui, aujourd'hui, ils ont fait une journée de repos parce que ils avaient quand même parmi eux Michael Matthews qui n'a pas pris un seul relais. C'est-à-dire qu'ils ont, ils l'ont fait à 5. Donc, c'est, on ne va pas les blâmer. Ils ont bien reçu depuis le départ du tour. Ils vont essayer de se refaire une petite santé demain. Alors, oui, je voudrais revenir sur un petit incident qui explique, enfin, qui est dont l'origine c'est peut-être justement cette cassure, c'est la prise de bec entre Valverde et Castroviejo après l'arrivée. Ce qui veut dire qu'ils sont
équipiers, hein.
Oui, de la même équipe, bien sûr. Donc il a dû se passer quelque chose et c'est peut-être Castroviejo tout simplement qui est à l'origine peut-être de la non-victoire de l'équipe Movistar.
Très bien. Au classement général, il y a évidemment des changements, hein, puisque il y a quand même quelques écarts aujourd'hui. Donc Christopher Froome reste évidemment en jaune plus que jamais, même s'il a perdu 6 dixièmes de seconde. Il a désormais 12 secondes d'avance sur son premier rival, en l'occurrence l'américain TJ Vanguardoren, qui est donc deuxième à 12 secondes. Les autres sont un peu plus loin. Greg Overmars, le belge de la formation BMC, est troisième à 27 secondes. Peter Sagan, 4e à 38 secondes. Alors les autres rivaux de Froome pour le classement général, 5e Contador à 1,03, donc c'est le deuxième des fantastiques, Alberto Contador. Valverde est 7e à 1,50. Quintana 9e à 1,59. Et puis Nibali, le dernier des fantastiques, qui n'a plus grand chose de fantastique sur ce Tour de France, est désormais 13e à 2 minutes 22. Donc entre Froome et Vanguardoren, qui fait partie des favoris, en tout cas des outsiders, il n'y a que 12 secondes, mais entre Froome et les autres fantastiques, c'est un peu plus creusé, hein, puisque Contador, premier d'entre eux, est à 1,03. D'où la question de ce soir, messieurs, avant même l'entrée en montagne, y a-t-il encore du suspense sur ce Tour de France? On va commencer avec toi, Thierry, nous dire si tu penses qu'il y a encore du suspense, si Froome est prenable encore dans les deux semaines qui arrivent.
On va bien voir s'il est prenable, mais moi je trouve qu'il reste encore du suspense, bien au contraire, parce que là, les adversaires de Froome vont être obligés de prendre des risques. Et je pense qu'on va avoir du gros spectacle, à moins que les adversaires s'estiment déjà battus. Mais je pense pas.
Il y a Contador, Quintana, c'est pas le genre de la maison quand même, à 1,03.
Valverde, Contador, c'est là. Contador, on a encore quelques doutes, mais Quintana et Valverde, on a vu qu'ils roulaient très fort et qu'ils avaient une grosse envie. Maintenant, dans les Pyrénées, je suis persuadé que les deux vont, du moins les trois Espagnols vont se faire un malin plaisir à mettre Froome en difficulté, c'est clair. Et pourquoi pas notre vainqueur sortant, parce que on l'enterre. C'est vrai que
la première encore, toi.
Non, pas vraiment. Mais on ne sait jamais. La journée de repos peut lui refaire les niveaux.
Alors, méfions-nous, les journées de repos sont des fois
catastrophiques pour certains, c'est clair.
Pour l'instant, moi, Nibali, je mets pas une piécette dessus pour l'instant.
Hein. Oui, pour l'instant. C'est clair. Il nous a montré la première semaine catastrophique, faut le dire. Mal placé, mais quand on est mal placé. Mais quand on est mal placé, c'est qu'on n'a pas la jambe, forcément. Et à quelque part, on a vu que hier, elle n'avait pas la jambe. Aujourd'hui, ben, son équipe n'était pas à la hauteur, mais était à la hauteur.
Ah, il marchait pas mal aujourd'hui.
C'est lui qui a pris quand même beaucoup de relais.
C'est lui qui termine l'étape en tête de son
équipe. Oui, mais bon.
2-22, c'est vrai que c'est quand même beaucoup à reprendre à Chris Froome, mais on espère évidemment que l'Italien, qui est un attaquant, hein, va essayer de montrer des choses dans les Pyrénées. Tiens, on va écouter Nicolas Portal, le directeur sportif de la formation Sky. Comment envisage-t-il la suite de ce Tour de France? On l'a interrogé tout à l'heure derrière la ligne d'arrivée. Nicolas Portal.
Je pense que ça fait partie des favoris. Je pense que pour le moment, on a les clés. En tout cas, là, on a vraiment les clés pour gagner le Tour. Mais voilà, tout peut arriver. C'est le Tour. On l'a vu dans le passé. J'espère qu'on le verra pas cette semaine pour nous. Mais faut rester concentré. Je veux vraiment voir Quintana, en fait. C'est vraiment, on va le voir en montagne. Je pense que là, il a pas trop le choix. Il va falloir qu'il reprenne du temps. Je pense qu'on va avoir un Quintana très fort. C'est une deuxième semaine à gérer au cas par cas chaque journée. Mais bon, franchement, on a le sourire, quoi.
Ah, ils ont le sourire, on les comprend, les gens de la Sky. On l'aurait à moins, évidemment. C'est presque inespéré, Luc, d'arriver comme ça au pied de la montagne avec une minute d'avance sur tous les principaux concurrents pour Chris Froome, non?
Ah ben, de toute façon,
on s'y attendait pas.
Au départ, on aurait dit Chris Froome maillot jaune au pied des Pyrénées. On n'aurait pas mis une piécette quand même sur Froome.
Par rapport à ses derniers
résultats, c'est pas celui qui donnait le plus d'assurance pour avoir le maillot jaune, et même en tout cas avec les autres leaders, on s'attendait pas à voir un des leaders déjà prendre le maillot jaune d'entrée dans les Pyrénées. Après, il peut se passer plein de choses, de toute façon. Et comme le disait Cyril, on reparlera de la journée de repos, mais ça peut faire du mal aussi pour certains.
Alors, Cyril.
Oui. Alors, quand on remarque bien le Dauphiné, et c'est là où il faut jamais être définitif dans nos appréciations ou dans nos jugements, le critérium du Dauphiné, c'est premier Froome, deuxième Vanguard de Rennes. Donc peut-être qu'on était à un très haut niveau, alors qu'on avait plutôt le sentiment, Vanguard de Rennes étant quand même un coureur un peu en retrait par rapport à ceux que vous avez appelés les quatre fantastiques. Vanguard de Rennes a peut-être pris un cran de plus. Et est-ce qu'on n'était pas tout simplement au plus haut niveau entre Froome et Vanguard de Rennes? Il y a 12 secondes aujourd'hui entre eux. Et puis les autres, eh bien, ils sont tous entre une minute et 2 minutes, et même Nibali à 2:22. Donc pour l'instant, les deux premiers du critérium du Dauphiné dominent le reste de la classe.
Alors justement, ce TJ Vanguard de Rennes là, parce que c'est vrai que on l'a pas mis dans les favoris.
Il a toujours déçu sur le tour.
Il fait pas partie des fantastiques. Est-ce qu'il a repris du poil de la bête? Est-ce que en termes de cote, est-ce que tu le mettrais sur le podium ou pourquoi pas aller titiller Chris Froome? Qu'est-ce que tu penses de TJ Vanguard de Rennes? Thierry.
Ah, excuse-moi.
Ah oui,
c'est quand même.
Tu prenais la parole, donc je te la donne.
L'année dernière, il fait cinquième. Bon, c'est vrai qu'il a, par le passé, il a un peu déçu. Souvent, il a déçu sur les grands rendez-vous qui étaient le Tour. C'est la quatrième fois qu'il fait le Tour. Je pense qu'on l'a peut-être un peu trop vite écarté. On s'est focalisé sur les quatre fantastiques. Et aujourd'hui, il peut nous surprendre. Après, attention, la haute montagne, ce qu'on a vu pendant une semaine, c'est pas le Tour qu'on va découvrir pendant les 15 prochains jours. Et là, sera-t-il à la hauteur en haute montagne? Sur le Dauphiné, il a montré qu'il savait grimper puisqu'il finit deuxième derrière Froome. Mais va-t-il être capable d'accompagner les meilleurs pendant 15 jours? C'est surtout ça. Cyril et Lucho, attention, le lendemain d'une journée de repos, faire une arrivée franche comme ça au sommet, ça peut faire d'énormes dégâts.
On en reparlera tout à l'heure à 19h45. Ce sera le thème de notre troisième débat. Comment gérer au mieux cette étape de cette journée de repos et les pièges à éviter justement dans cette journée de repos. Vanguard de Rennes, Cyril, un tout petit mot pour conclure sur Vanguard de Rennes.
C'est un coureur qui, l'an dernier, était inférieur à Perrault, inférieur à Pinot, inférieur à Bardet. Mais on pouvait remarquer que sa façon de...
Il fait cinquième l'année dernière. Hein.
Oui, mais...
Devant Bardet quand même.
Oui, mais juste devant. C'est la même chose, sauf que Bardet était capable d'attaquer, lui pas. Alors après, il y avait des problèmes de défaillance ou de jours sans. Mais Van Garderen, et on l'a vu, ça s'est confirmé sur le critérium du Dauphiné, est un coureur qui ne suit aucune accélération et qui ne peut pas, et qui monte l'école. J'ai presque envie de dire à la manière d'Anquetil, mais avec moins de classe qu'Anquetil.
Les fesses sur ça.
Uniquement sur ses qualités, non pas de grimpeur, sur ses qualités de rouleur contre la montre. Et il a un rapport poids-puissance d'ailleurs qui lui interdit de jouer les Contadors ou les Quintana, c'est-à-dire capable de faire des accélérations brutales. Ça sera là où on pourra le mettre en danger.
Très bien, on va continuer d'évoquer et d'énumérer les autres favoris. Y a-t-il encore du suspense dans ce Tour de France? On vous attend sur le hashtag RMC Live ou au 32-16. Nicolas a composé le 32-16, on va l'accueillir dans un instant sur RMC dans l'intégral tour. A tout de suite.
RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
En direct de Plumelec ce soir au terme de la 9e étape du Tour de France, le contre-la-montre par équipe remporté donc par l'équipe américaine BMC devant la Sky. Ça s'est joué dans un mouchoir de poche, un 62 centième d'écart entre les deux équipes, on vous le rappelle, et Chris Froome conserve son maillot jaune de leader. Ce soir on se pose la question au terme de cette première partie de Tour de France de savoir s'il reste encore du suspense. Certains nous disent que oui, d'autres non. Slim Shady sur le hashtag RMC Live nous dit: si la Sky met son train en place sur toutes les étapes de montagne et que personne tente des coups de loin, Froome sera imbattable, évidemment. Mais bon,
s'il n'y a pas d'attaquant, c'est sûr qu'il va balader. Ouais.
Il va falloir attaquer. C'est pour ça qu'on reste optimiste quand même pour la suite du tour. Nicolas est au 32-16. Il nous appelle de Haute-Garonne. Bonsoir, Nicolas.
Ouais, salut tout le monde.
Salut, Nicolas.
Bon, Nicolas, encore optimiste. Il y a du suspense sur ce tour. Qu'est-ce que tu espères des Pyrénées? C'est ta région. C'est pas loin en tous les cas.
Exactement. Ben, écoutez, moi, je suis un peu déçu au niveau de cette première semaine de voir autant d'écart au général. Je pensais que ça serait beaucoup plus serré, qu'on arriverait dans la montagne et que ça commencerait à s'agiter à ce moment-là. C'est vrai que Froome, là, il a un petit peu distancé tout le monde. On pourrait se dire que ça va être compliqué. Maintenant, moi, je crois quand même toujours à mort sur Quintana. C'est ce que j'avais dit au début, juste avant que le Tour débute. Je pense qu'il est extrêmement en confiance, qu'il attend les Pyrénées, qu'il attend la transition Pyrénées-Alpes et qu'il attend surtout la dernière étape des Alpes à l'Alpe d'Huez. Bon, effectivement, il a pris du retard. Maintenant, vu la complexité du parcours qu'attendent les coureurs sur les deux prochaines semaines, je pense que c'est quand même pas encore tout à fait gagné pour Froome. Au niveau des Français, là, malheureusement, je vois pas trop comment ils vont faire pour pouvoir se réinsérer dans le classement au général, à voir que c'est déjà pas mal si on arrive à en avoir un qui se maintient dans le top 10. Bon, ça, c'est vraiment dommage. C'est énormément de frustration, surtout après le tour de l'année dernière où on pouvait se dire, bon, allez... Il suffit qu'il fasse un peu mieux et c'est réglé. Mais je pense quand même que c'est pas encore gagné, ouais. Pour Froome, ça c'est clair. Hein.
D'accord. Bah oui, bon, on va voir. Effectivement, Quintana revient quand même dans le jeu. Nicolas, il reste l'un des principaux adversaires de Froome, surtout lorsqu'on connaît ses aptitudes en montagne, Cyril. Hein. C'est un vrai grimpeur. Et bon, il est à 2 minutes, Quintana. Ça peut-être le faire pour Quintana. Il va falloir qu'il attaque, mais ça, c'est une certitude. Quintana, est-ce que tu y crois encore pour mettre à mal la domination du Britannique?
J'ai besoin et j'ai envie d'y croire. il a effectivement les qualités du vrai grimpeur et surtout du grimpeur comme le sont d'ailleurs tous les Colombiens qui ont l'habitude de grimper énormément de cols chez eux, des cols très longs d'ailleurs, des cols qui vont jusqu'à 40 kilomètres. Ils ont cette capacité à être économiques dans les ascensions. Et donc, quand vous avez des successions d'ascensions, sur la dernière ascension, il reste encore beaucoup de gaz à l'intérieur. Donc, oui, j'y crois. Seulement 2 minutes. 2 minutes, c'est peu, c'est beaucoup à la fois. S'il n'y a pas de défaillance, regardez, la plupart du temps, lorsque des leaders sont en difficulté, ils vont perdre 15 secondes, 20 secondes, 30 secondes. Puis on a tellement d'informatique sur les vélos, je parle pas des petits moteurs, pas encore, où j'en ai parlé avant, alors peut-être qu'il n'y en aura pas, qu'ils sont capables de gérer uniquement avec leur tableau de bord, là, leur fréquence de pédalage, les puissances développées, pulsée, la fréquence cardiaque. Je suis pas sûr qu'ils aient pas le taux de lactate aussi, ou tout du moins ils sont capables éventuellement de l'analyser sans même avoir besoin de s'occuper de leurs propres sensations. Donc ils sont capables de laisser filer, de se refaire et de ne pas perdre beaucoup de terrain. Ça, je pense que c'est un des éléments qu'il faut intégrer aujourd'hui dans la compétition. Et en ce sens, le champion du monde, on va dire, du tableau de bord informatisé, électronique, c'est quand même Froome.
Oui, bien sûr.
Puisqu'il ne s'entraîne qu'avec ça, il est capable donc de gérer toutes les ascensions et surtout toutes les ascensions finales. Alors reste.
Aujourd'hui,
bah oui, il reste
tous
les
avec
descentes.
Ça.
Il reste les descentes.
Il reste les descentes. Oui.
Eh oui,
il
sait
qu'il est très adroit
dans les descentes.
Ouais. Et Nibali, c'est Nibali, hein, le meilleur descendeur de.
Oui, mais bon, Nibali, pour moi, j'y crois plus. Ouais. Vous ne pouvez pas.
C'est-à-dire, à deux minutes, tu veux encore y croire pour Quintana, mais à 2,22, tu n'y crois plus
pour
Nibali.
Ce ne sont pas les mêmes coureurs. Non. Et puis, Nibali, l'an dernier, il était sur coussin d'air. Cette année. Cette année, il y a peut-être le coussin, mais il n'y a pas l'air, quoi.
Cyril, l'an dernier, il ne fait que.
Faut être sérieux, je l'ai dit hier soir et je vais le redire. Vous ne pouvez pas, sur une côte d'un kilomètre à 10%, vous faire lâcher par 30 coureurs. On n'a jamais vu un vainqueur du Tour lâcher sur une côte d'un kilomètre
par 30
coureurs. Sûr. Ça m'inquiète.
Oui, mais Nibali, l'an dernier, il ne faisait que gérer une petite...
Tu rigoles, il a attaqué tout le temps, Nibali, l'année dernière.
Il gérait les gars, et au bout d'un moment, quand il en avait un peu marre, il mettait un coup d'accélérateur, et tout le monde se faisait larguer.
Oui, mais il n'avait pas l'opposition.
Il n'avait pas l'adversité qu'il a cette année.
Non,
et puis, et en plus,
ça,
il était en meilleure santé qu'aujourd'hui, que ce qu'il a démontré la première semaine.
Le maillot jaune, je pense, donne des forces un peu plus que quand on l'a pas.
Alors qu'il le prenne, hein.
Il a besoin,
le requin, il va falloir qu'il ait les dents longues, dans les prochains jours.
Le requin va avoir du mal. Merci en tous les cas, Nicolas, d'être venu au 32-16. On va évoquer Contador, qui finalement est le plus proche de Chris Froome au classement général, dans les pseudo fantastique, 1-0-3. Alors,
merci.
On va écouter plus Sean Yates, le directeur sportif de l'équipe Tinkoff Saxo. Que pense-t-il de la suite du Tour? Est-ce qu'il y croit encore, Sean Yates?
Il n'est pas mauvais, mais Froome, il est mieux en ce moment. Alors, oui, c'est sûr que Froome, c'est mon coureur. Quand il marche. On a vu ça déjà dans les années passées. Et puis, oui, il faut espérer qu'il va une jouissance un peu. Et puis, il faut profiter, quoi. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas fait d'erreur. Et c'est seulement qu'eux, ils sont un peu plus forts.
Ils sont un peu plus forts.
Oui. Ça donne pas confiance. Ouais.
Quand tu entends le directeur sportif dire qu'ils sont au-dessus,
on le sent déjà battu.
Ça peut être de l'espoir aussi, Thierry.
Il y a le discours.
Et puis les actes.
Que tu tiens en média,
il y a le discours qu'on peut modeler, les mots. Mais on sent pas dans sa voix une flamme, le son de sa voix est défaitiste.
Alors attention, parce que Sean Yates était le directeur sportif de Chris Froome. Il l'a amené vers la victoire en 2013. Depuis, il a été remercié de la formation Sky. Il est chez Tinkoff Saxo, mais il est britannique et peut-être que son cœur bat un peu plus fort
Le cœur,
je pense qu'il aurait été bien avec Froome. Il restait la Sky.
De l'équipe Sky, parce que l'équipe Sky ne veut pas dans ses rangs des coureurs qui ont été convaincus de dopage dans le passé, et ce qui a été le cas malheureusement pour Sean Yates. Donc Contador, c'était ton favori au début du Tour, Thierry. Alors vas-y,
défends-le, dis-nous qui va
gagner le Tour.
Moi, je dis franchement qu'il a passé une première semaine acceptable en limitant les dégâts, mais sans montrer...
Au mur de 8, c'était pas tellement acceptable quand même pour lui.
Bah, il a limité, limité. Mais je te dis, sans montrer qu'il était au-dessus, voire même au même niveau que Froome. Franchement, il est passé sans encombre avec les coups de bordure et les chutes, mais il n'a pas montré, je l'ai toujours dit, la bouche ouverte, grimaçant, c'était un peu inquiétant. Maintenant, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Je dis, la première semaine n'est pas les deux prochaines, hein, parce que là, on passe des classiques à les courses de montagne, et ça risque d'être
Tu vas passer du 53 au 39, c'est sûr.
Avec
il a d'un coup, hein, parce
de
repos.
Il y a que certains qui risquent de se faire une fracture du crâne au pied d'école.
Alors, Lucho, derrière Froome, qui tu vois?
Lucho. Il risque rien.
qui tu vois derrière Chris Froome, qui tu vois comme principal adversaire de Froome dans les montagnes.
Moi, je change pas d'avis depuis le départ du Tour. Je vois Quintana
toujours.
Quintana gagner le Tour.
A toujours gagné le Tour, d'accord.
Oui, je l'ai vu aujourd'hui dans Cadoudal. Il se baladait. Hein.
Ouais.
Il se baladait.
C'est pas un col.
Il a été quand même impressionnant parce qu'il était quand même dans une grosse équipe, la Movistar. Ils ont fait un super chrono. Et il était là, quoi. Il était présent, même. Pourtant, c'est pas un exercice pour lui, quoi. Et il était présent dans les relais, dans les relances. Il a super bien géré avec son équipe le chrono. Il est présent. Et il va falloir compter sur lui.
Très bien, nous verrons ça en tout cas donc à partir de mardi pour les favoris du classement général. On va, messieurs, s'intéresser maintenant aux Français parce que là, bon, le bilan, il faut bien le dire, n'est pas fameux, mis à part la très belle victoire de Villermoz hier, première victoire d'étape française sur les routes de ce Tour 2015. Mais alors, au classement général, c'est peau de chagrin quand même. Hein. Le premier au général, le premier Français, c'est Tony Galopin qui est donc 11e à 2 minutes 01. Mais on sait que Tony ne cherche pas à faire une place au général puisque évidemment en haute montagne il est un peu limité. Warren Barguil a rétrogradé au 14e rang aujourd'hui, il est à 2,43. Jean-Christophe Perrault est 17e à 3 minutes 30. Romain Bardet 21e à 4,38. Thibaut Pinot 29e à 8,05 et 36e c'est Pierre Roland qui est désormais à 11 minutes 43.
Là voilà l'intérêt d'une bonne équipe en chrono. Parce que
oui, enfin, il y a pas que ce matin, que là que ça
ce matin
même,
les Galopins, les Barguil, ils étaient dans les 10 premiers, et ils étaient pas si loin que ça. Et là, d'un coup, déjà, tu prends 2 minutes dans les carreaux pratiquement, hein, ouais. Parce que Galopin, c'est à peu près ça, c'est une 45 qu'il a pris.
Ouais. Oui, mais ça n'est pas important pour Tony, parce que
non,
de toute façon,
Galopin,
pas le classement général.
Et Barguil, il aurait pu se perdre.
Mais il vise une étape là.
Barguil, je pense qu'il prend une 37 dans le alors une 36 sur Froome. L'addition est lourde. Hein. L'addition est très.
Voilà, exactement.
Alors, Thierry,
lui, il pouvait espérer se placer au général.
Qu'est-ce qu'ils peuvent espérer ?
C'est pas fini encore.
Que peuvent-ils espérer, Thierry ?
Les Français ?
Les Français, ouais. C'est quoi ? C'est un top 10
Il faut pas prendre la course comme ça là. Et maintenant c'est bon, on arrête, on n'a plus rien à perdre. Je pense que il faut viser les étapes et puis se faire plaisir.
Voilà,
et prendre des risques.
Pour Barguil, le top 10 est encore possible.
Oui, non, mais pour...
Si on retire, il est 14e, si on retire tous ceux qui vont disparaître mardi, il est entre la 8e et 10e place, s'il finit dans le groupe de tête, bien sûr.
Qui va disparaître ? Van Avermaet, peut-être ?
Il y a Van Avermaet, il y a Peter Sagan,
Geraint
Thomas, Stibar, Galopin, Kreuziger, et peut-être Nibali d'ailleurs.
Peut-être Nibali. Ouais, on sait pas. Tiens, on va écouter tout de suite Romain Bardet, hein, qui évidemment l'une des grosses déceptions de ce début de Tour de France, au même titre que Thibaut Pinot, même si Thibaut est encore plus loin, je vous le disais, à 8,05. Romain Bardet a-t-il changé son fusil d'épaule après cette 9e étape, après cette première partie de Tour de France ? Sa réponse.
Pour moi, le top 5, non, ça va être compliqué. Non, ça va être très compliqué, je suis déjà très loin en général. Le top 10, je serais content encore, mais... Rien ne dit que je vais rester sur classement général. Je vais peut-être partir sur des victoires d'étape aussi. Vraiment, faire un point avec l'équipe. Je suis sûr, JC est très bien placé depuis le début du tour. C'est lui le leader numéro 1. Il y a vraiment de super étapes. Avec la condition qui va crescendo, c'est vraiment pour cette troisième semaine que j'ai travaillé depuis longtemps. Des attentes élevées sur cette dernière partie de tour.
Voilà, Romain Bardet, le ton est abaissé de trois tons. Hein.
Il se pose encore les questions sur le top 10, top 5.
Le top, non, il dit le top 5
top
pour
5,
moi, c'est
ça risque d'être c'est difficile, c'est mais ouais. Mais il a encore des ambitions au général. Chapeau.
Ouais. Rico, sur le hashtag RMC Live, je dis vous êtes dur avec les équipes françaises. La G2R est une équipe de montagnards, les FDJ font ce qu'ils peuvent.
Ouais, mais ils peuvent pas grand chose, malheureusement.
On critique pas, on est réaliste.
Qui nous surprennent.
On critique pas.
Il faut bien le dire, Rico. On espérait mieux quand même. Je pense que tu espérais mieux comme nous. Tu espérais que Thibaut Pinot ou Romain Bardet soient mieux classés au général aujourd'hui. Malheureusement, ils sont passés,
on est déçus.
Ils sont passés à côté de leur première partie de tour. Ah oui. Et quand on entend Thibaut Pinot nous dire, oh là là, j'ai mal au genou, j'ai la bronchite, on se demande même s'il va terminer le tour, hein. Donc il faut aussi dire les choses comme elles sont. Ça nous aurait ravi qu'il soit évidemment là dans le top 5, prêt à bondir sur tout ce qui se passe. Mais malheureusement, c'est une déception. Il faut pas se voiler la face. Fabien est avec nous au 32-16. Il voulait intervenir dans notre débat. Salut Fabien.
Bonsoir messieurs.
Salut Fabien.
Salut Fabien.
Comment allez-vous?
Bah bien, mais bon, on espère un peu mieux les Français quand même.
Oui, hein, c'est vrai que samedi c'était quand même assez kiffant de les regarder à la télé, voir Villarmoz gagner, mais là maintenant, quand on voit que le contre-la-montre par équipe, les équipes françaises ont pas trop bien géré. Maintenant, ils peuvent, à part faire des alliances entre équipes françaises dans la montagne pour essayer de remonter tout le monde au général, maintenant c'est victoire d'étape ou maillot à poids.
C'est du rêve, hein, les alliances, hein. C'est du rêve.
C'est donc victoire d'étape et maillot à poids. Intéressant ce que dit Fabien. Le maillot à poids, Cyril, est-ce que ça peut devenir un objectif de rattrapage en quelque sorte pour un Bardet ou pour un Pinot?
Pierre Roland est à 11 minutes, Pinot est à 8 minutes, Bardet est à 5 minutes, je sais plus.
4.38.
4.38. Il vaut mieux essayer d'aller chercher le classement par points, à points, que d'essayer de venir chercher une hypothétique place de 10e dont personne ne se souviendra dans 15 ans. En essayant d'aller chercher le maillot à poids. Vous avez une chance aussi d'aller chercher une étape de montagne.
Ah oui, mais oui, parce qu'on sait que les points distribués sont beaucoup plus importants pour le vainqueur de l'étape.
Mais il faut partir sur des raids maintenant.
Moi, ce qui m'en prune un peu du maillot à poids, ça veut dire qu'un mec qui a 11 minutes au classement général peut réaliser l'exploit d'être maillot à pois rouge.
Mais bien sûr,
à Paris.
Mais oui, la montagne, on n'en a pas encore vu. La montagne, elle arrive maintenant. Tu peux te retrouver en 11 minutes dans la plaine.
Ça veut dire qu'à la pédale, c'est pas forcément le meilleur grimpeur du tour.
Mais
qui
ça
est
n'a
maillot
jamais, jamais oui, été. Pratiquement jamais.
Tu enfonces des portes ouvertes, on le sait depuis longtemps.
Oui, on le sait depuis longtemps. Mais c'est pour ça, c'est chiant. Excuse-moi de te dire, c'est chiant.
Le meilleur grimpeur du tour, c'est celui qui gagne le tour.
Mais voilà, mais c'est chiant de pas voir le maillot à pois rouge. À la limite, c'est le premier du tour, mais c'est lui le maillot à pois rouge puisqu'il a été le meilleur partout, même en montagne. Et je sais pas comment on peut réviser les points et tout ça, ça va pas.
Dans ces cas-là,
alors,
le maillot vert qui récompense le meilleur sprinter, mais aujourd'hui c'est pas le meilleur sprinter.
Et faire un chrono à chaque pied de col jusqu'au sommet, et là
on chronomètre. Voilà. Ça serait vraiment
le meilleur
grimpeur.
Chrono, c'est voilà le temps pris au pied du col jusqu'en haut à chaque fois.
Attends, t'as des gars qui vont faire le meilleur chrono, ils se laissent larguer dans le premier col.
Possible. Des gars qui vont faire le chrono, mais attends.
Cyril, avec les classements de Pinot, de Bardet, de Roland, ils vont peut-être bénéficier d'un peu plus de bonnes
sorties. C'est pour ça qu'on peut. Hein. Virac, il a été 7 fois, je crois, meilleur grimpeur du tour.
C'est comme ça qu'il est devenu le coureur.
Et qu'est-ce qu'il faisait? Virac, il regardait les étapes. Je vais vous dire comment il faisait.
Oui, il y a plus de montagne.
Là, la première, arrivée au sommet, là, de toute façon, à la pédale, je peux pas jouer. Donc, il montait, tric-crac, 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 tranquille. Le lendemain, oh putain, c'est encore dur. Je vais peut-être essayer d'aller faire sur le premier grimpeur. Il va pas y avoir la grande bagarre. Je vais essayer d'aller marquer quelques petits points, mais juste quelques petits points. Je vais pas aller les taquiner. Et puis, le lendemain, il dit, oh putain, t'as 4 cols. Et ben, là, il sortait où? Il sortait sur le premier col, et il passait en tête au premier, il passait en tête au deuxième, il passait en tête au troisième, et quelquefois, même si ça finissait en haut, il allait chercher le 4. Il arrivait, il avait 70-80 points d'avance sur le deuxième, il n'y avait plus match.
Alors les Français gardaient dans la tête le plateau de Baye.
Comment ?
Et les Français, je dis bien, si on écoute ce que tu viens de dire, mettez-vous dans la tête, le jeudi 16 juillet, il y a l'étape pour faire ça.
Mmh. Et oui. Bah, oui,
il y a
tout à fait.
Un premier catégorie, deux premières et un hors catégorie. Et comme tu dis, à la rigueur, si tu veux gagner une étape, tu peux espérer aller la gagner. Ça dépend
comment ça se passe derrière. T'es pas dangereux au général, ça se neutralise.
Ça dépend s'il y a la guerre derrière entre les meilleurs.
Très bien, messieurs, nous attendons évidemment beaucoup des Français encore. Et alors je me fais insulter sur le hashtag RMC Live par Lucien. Lucien qui nous dit arrêtez d'agresser les auditeurs, bande d'incapables. On n'agresse pas les auditeurs, Lulu, t'inquiète pas. On les adore nos auditeurs.
Et Lucien, on n'est pas des incapables, bande d'incapables. Mettez-vous derrière le micro.
C'est du débat avec le casque, c'est comme ça que ça se passe.
Bande d'incapables.
Ah Lulu, il a une bonne tête, on l'embrasse quand même. Allez, on revient dans un instant.
Prenez dans le camion, Lulu, prenez le casque.
Dans l'intégral tour, dans un instant, nous allons évoquer les paris parce que là aussi le tour est gagné. par Luc Leblanc. Bah oui, dans le
oui,
Tour de Paris.
Attends, ça, le Tour n'est pas
fini. Je vois pas comment tu vas faire pour revenir. Hein.
Mais il n'y a pas que moi, Cyril est judicieux et Mariol.
Non, moi je la joue tactique maintenant.
Et puis surtout, comment gérer cette journée de repos. Voilà le thème de notre prochain débat. Il nous reste quelques minutes pour en parler. Et Lucien, non mais franchement, on n'agresse pas les auditeurs, on les aime. On vous aime, nos auditeurs, sans vous, on est rien, nous. On est que dalle. Voilà, donc on vous aime, on vous embrasse et à tout de suite.
RMC, Intégral Tour, Christophe Sessieux.
L'intégral tour jusqu'à 21h. Nous sommes encore pendant quelques minutes avec Cyril Guimard, Luc Leblanc et Thierry Bourguignon, mais ils vont rester encore une petite demi-heure avec Martial Fernandez jusqu'à 20h30 avant de prendre la route direction Pau. On va évoquer dans quelques instants les paris et ce tour presque gagné par Luc Leblanc. Ben oui, il faut bien le dire, l'avance est considérable. Rico nous dit, je vous parie qu'à la fin du tour il y aura deux Français dans le top 10, voire mieux. Ben on l'espère, Rico. On l'espère franchement. Ce serait vraiment ben l'assurance d'une deuxième très belle partie de tour pour nos petits Français. On ne souhaite que ça, nous, que les Français marchent. Hein. Vous savez, c'est un peu notre...
D'autant
notre planche
qu'on a,
de salut.
Oui, on a été un peu sevré et heureusement qu'il y a eu
Alexis hier
qui nous a vraiment fait énormément plaisir. Mais rappelez-vous, on a trois sprinters qui sont dans le top des 7-8 meilleurs et on n'a pas eu un sprinter qui a fait un sprint. Hein.
Ouais, bon, il y a l'abandon
de
Nasser Bouhanni.
Une troisième place de. Donc là aussi, on a été un peu déçus.
Ouais. Olivier Winter sur le hashtag RMC là, il nous dit, moi je prends pas le micro mais je veux bien récupérer la Lucho Mobile pour faire le tour des popotes. Est-ce que tu es prêt à lui donner ta Lucho Mobile?
Partagé.
J'étais un petit peu déçu de ma première semaine, j'avoue. Oui, heureusement que je suis arrivé en Bretagne pour récupérer des galettes, saucisses et crêpes. C'est vrai, mais bon, j'attends beaucoup mieux.
J'attends beaucoup mieux sur
Pau, Tarbes et tout pour prendre des confits et tout ça.
Alors, messieurs, demain.
C'est un objectif pour Lucho là.
Ben il y a vraiment le gros. Il y en a qui veulent rentrer dans le top 10, il y en a qui veulent ramener
la saucisse, les plats du terroir.
Voilà. Très bien. Alors, messieurs, demain, journée de repos. La première des deux journées, c'est un marronnier, mais on y vient chaque année. Comment gérer au mieux cette journée de repos qui intervient après une première partie de tour très difficile, quand même, il faut bien le dire. Les organismes sont fatigués. Tiens, on va écouter à ce sujet Jean-Christophe Perrault nous parler de cette journée de repos. Est-ce qu'elle arrive à point pour les coureurs du tour? Jean-Christophe Perrault.
C'est clair, je pense qu'on l'a mérité. Hein. C'était une première semaine très stressante. Beaucoup de chutes, du frottage, du vent, des mauvaises conditions météo aussi. Ça a usé les organismes, tant physiquement que psychologiquement. Et la première journée de repos va nous faire un bien fou.
Un bien fou. Donc, on va se reposer, on va mettre les pieds en l'air. Lucho, t'aimais bien les journées de repos, toi? Non, c'est pas ton truc. Toi, t'es un hyperactif.
Des fois, tu sais, c'est bien de continuer le tour dans la lancée. Mais bon, la journée de repos, je faisais au moins 3 heures.
Ouais.
3 heures de vélo avec quelques bosses, voir comme demain ils sont sur Pau, monter un petit col pas très très long, mais rester dans le rythme avant la première étape pyrénéenne.
Cyril, on va changer de braquet. Luc le disait tout à l'heure, il y a quand même eu cette première semaine très fatigante, pas de véritable montagne, et là d'un seul coup j'en ai de repos et paf, on attaque, et Cyril le disait tout à l'heure, par la Pierre Saint-Martin mardi. C'est vraiment un changement total. Hein. Donc,
oui, y a même pas un petit col avant pour commencer.
Il n'y a rien du tout.
Vous allez arriver au pied par un parcours, enfin pas tout à fait plat quand même, on va dire un peu comme des routes bretonnes. Et puis vous allez arriver et là d'un seul coup, boum.
Ça fait le mur.
Vous avez un suppositoire devant vous.
Tu peux faire une fracture du crâne, hein, sur ce coup-là.
Une bosse sur le front, sûr. C'est vrai que le changement de rythme aussi brutal, c'est assez rare de voir ce type d'étape. Souvent, vous avez, allez avoir Aspin ou Persourde. Bon.
En 94, t'avais Otakam.
Quand on descend de la Bretagne, effectivement, on tape dedans dès le premier jour. Mais en règle générale, vous avez toujours un petit truc avant. Bon, là, c'est pas le cas. Et je peux vous dire que quand on va passer, quand on va commencer à mettre le pignon devant et le plateau derrière, va y avoir des pannes de secteur.
Très bien. Nous verrons ça. On en reparlera évidemment demain soir, mardi. Donc, entrée dans les Pyrénées. On a hâte d'y être. En attendant, on va se poser la question de savoir si Luc Leblanc n'a pas déjà remporté le Tour de France des Paris. C'est l'heure des paris.
Les paris RMC, Tour de France.
Benoît Boutron.
Salut Christophe.
Salut, salut Benoît.
Ah, il est content l'autre jour, il a le sourire.
Messieurs, est-ce qu'on peut parier sur les saucisses?
Eh non, ça, on ne peut pas parier dessus. Malheureusement. En revanche, vous le savez, on va décerner des notes. Et oui, c'est la fin du premier trimestre, messieurs, sur ce Tour de France. Ouais. Et on a des notes à donner. Donc...
Oh là là là, je ne veux pas voir mon carnet de notes.
Ou plutôt des appréciations. Les félicitations pour Luc Leblanc et pour Thierry Bourguignon, qui sont en positif. Et oui, 288 euros pour Lucho. 31 euros pour Thierry Bourguignon.
Putain, t'es loin, hein.
Il y a le trou, Lucho.
Félicitations avec félicitations du jury pour Luc et encouragement pour
des
pour
encouragements
Thierry.
Pour Cyril Guimard.
Ah ouais, quand même.
À moins 25 euros, mais au classement du maillot vert, il est pas mal puisqu'il est troisième. Et un avertissement pour Christophe Cessieux.
Mais oui, mais Lucien l'a dit, je suis un incapable.
Il a combien? Il est à moins 90 euros. C'est une blague, c'est n'importe quoi. C'est pire que toute l'année dans la grande gueule du sport.
Je vais pas pouvoir partir.
T'aurais dû me suivre.
Il veut pas nous écouter, les gars. Il veut pas. Il veut faire ses paris de son côté.
Non, mais il croit tout savoir. Tu sais, c'est le mec qui sait tout.
En 10 ans,
hein. Il sait tout. Les mecs qui ont fait du vélo, c'est des mecs stupides.
Déjà, ça fait pas 10 ans qu'on fait les paris, Cyril.
Christophe.
Mais je sais Christophe.
Monsieur Rio.
Mais tu es fou, quoi.
Je plaisante. Eh, hey, t'as perdu ton humour, toi aussi.
Non, hein, mais non, mais
argent,
pas,
ton humour.
Pas du tout, mais moi, j'adore les coureurs. Vous êtes mes idoles depuis toujours,
alors,
messieurs.
J'adore les auditeurs.
J'adore tout le monde. J'adore tout le monde, sauf Georges Quirino. Tiens, je l'aime pas, celui-là. Bon, comment faire pour... Non, il m'a amené... En plus, il m'a amené...
Ouais, non, mais attends, mais moi, je vous prends une bouteille de bière et puis j'ai même pas le droit à un verre.
Non, rien
plus.
Du tout. T'as le droit à rien du tout. Non, t'avais qu'à ramener plus de trucs, t'as rien ramené, t'as pas les félicitations du jury pour la Lucho Mobile.
Oh là.
Donc, course gagnée, Benoît, pour
Lucho?
Non,
c'est pas terminé, les gars. Il y a des belles cotes à trouver, évidemment, notamment dès mardi, avec la première étape de montagne. Il va falloir être bon, évidemment, mais Lucho n'a pas gagné le tour. Cyril, je crois en toi encore. Tu peux aller chercher.
Ah, ça veut dire que t'es pour Cyril, mais t'es pas pour moi, d'accord.
Toi, Cyril, c'est l'expérience. C'est l'expérience. C'est mon favori, oui, Cyril Guimard.
Aujourd'hui, je suis battu pour 600e.
Moi, je t'ai suivi.
Je m'y en veux à Roche.
Lucho, c'est encore plus jouissif. Hein?
De taper le
ah oui, ça vous fait plaisir, ça.
C'est le millimètre.
Mais encore, je voulais vous faire passer un scoop sur le druide, mais alors plus tard, parce qu'on a plus le temps.
On a le temps encore une demi-heure.
1477. Un ancien coureur qui m'a dit ça ce matin.
Parfait. Les paris, c'est terminé. On y revient demain dans les paris, parce que demain, on va pas parier sur l'étape de demain. C'est journée de repos. Je parie que tu vas te lever à 9h du matin, après t'être couché à 5h du matin.
Oh là là, parce que là, on va parier.
Il y a la route. Très bien. Les paris, merci Benoît. À demain.
Salut à tous.
PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
Martial est là pour prendre le relais. Ça tombe
je
bien.
Prends le relais. C'est contre la montre par équipe. Non, c'est ça aujourd'hui.
Ben voilà. Ouais, il faut pas louper les relais. Hein.
Bon, alors je garde deux équipiers avec moi. Luc Leblanc, Thierry Bourguignon.
Sur le cinquième homme, on est mal.
Ben, on est trois, mais il va falloir rester dans ma roue jusqu'au bout, hein, les gars, quand même. Hein. Je compte sur vous. Ou alors ça sera à moi de m'accrocher. Je sais pas, on verra.
Non, ou alors. Oui, voilà. On t'attendra.
Ouais,
j'ai pas peur.
J'ai pas peur. Moi, j'ai un petit vélo derrière. 32-16. Ou alors le hashtag RMC Live. Appelez-nous pour poser toutes vos questions à Thierry Bourguignon et Luc Leblanc jusqu'à 20h30. Et puis on parlera rugby, mais rugby olympique avec l'équipe de France de rugby à 7 masculine qui est qualifiée pour les Jeux de Rio, parce qu'il y aura du rugby à 7 à Rio l'année prochaine.
RMC Intégral Tour.